podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. Je m'appelle Sophie Scholeck, je suis journaliste et ensemble, nous allons dans cet épisode prendre une grande bouffée de nature. Alors pas n'importe où, dans les grands espaces nord-américains des États-Unis et pas n'importe comment, à travers la littérature écologiste. Bonjour Claire Cazajou-Auger.
Bonjour Sophie.
Vous enseignez la littérature anglophone et environnement ou environnementale en tant que maîtresse de conférences à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et vous êtes chercheuse au sein du laboratoire CAS pour Center for Anglophone Studies à l'UT2J. Votre dernier ouvrage s'intitule À la trace, la poétique animalière de Rick Bass, publié aux presses de l'École normale supérieure de Lyon. J'évoquais à l'instant les États Claire Cazajou-Auger, parce que c'est finalement là-bas qu'est née cette littérature écologiste à partir d'un courant qui est l'écriture de la nature. Alors, quand est-il né ce courant et comment est née ensuite la littérature écologiste ?
On estime que le père fondateur de l'écriture de la nature et plus largement de l'écriture et de la littérature environnementale, c'est Henry David Thoreau, qui vivait dans le Massachusetts, donc la Nouvelle-Angleterre, au milieu du 19e siècle. Alors c'est l'héritier de toute une pensée américaine, transcendantaliste, notamment de son grand mentor Emerson. Mais Thoreau est connu notamment, enfin pour plein de textes, mais il y en a un qui a beaucoup marqué la culture et la littérature états-unienne, c'est Walden. C'est un texte dans lequel il parle d'une expérience qu'il a vécue pendant 2 ans, où il s'est retiré dans les bois et il a vécu comme un ermite pendant 2 ans, dans une cabane qu'il dit avoir construite de ses mains, et il a vécu autant que possible en harmonie avec la nature, cultiver ses propres haricots et à observer voilà, la nature en général autour de lui. Donc c'est un essai naturaliste, mais aussi un journal intime. Et donc c'est ce récit qui est vraiment envisagé comme le départ de cette littérature-là où l'humain n'est plus au centre. C'est vraiment la nature non humaine qui n'est pas qu'un cadre aux activités des hommes, mais vraiment une entité à part entière.
Quelque chose de vivant, quelque part.
Absolument, et qui a des intérêts propres, qui dépassent les intérêts que les hommes peuvent avoir pour elle. Et donc, c'est un récit où il y a peut-être... Les intrigues ne sont pas centrées autour des humains, mais parfois, il y a une bataille entre des fourmis rouges et des fourmis noires. Et l'intrigue, elle est là. Elle est dans cette bataille entre les fourmis ou une rencontre avec un huard sur le lac de Walden. Et donc, cette rencontre prend l'étoffe d'une intrigue littéraire. Mais encore une fois, il n'y a pas d'homme là. C'est juste l'observateur, oui, qui est là, qui rappelle sa présence. Hein. Mais voilà, donc ça a donné naissance à ce genre-là qui a ensuite eu beaucoup d'importance aux États-Unis.
Quelle est la caractéristique à partir de ce courant qui est l'écriture de la nature de l'écriture écologiste?
L'écriture de la nature, c'est vraiment un genre particulier, un genre propre aux États-Unis, en tout cas très très fort aux États-Unis. Qui est un genre de littérature hybride, comme Walden, je le disais tout à l'heure, il y a de l'histoire naturelle, une partie autobiographique, parfois des pensées philosophiques, parfois un peu de fiction. Donc ça se mélange beaucoup. Mais c'est souvent anthropocentré quand même. Donc même si on essaie d'adopter autant que possible, enfin de montrer l'intérêt de la nature, il y a toujours l'importance de l'expérience humaine de la nature. Que fait le narrateur ? Que fait le philosophe ? L'écriture environnementale, c'est plutôt un courant en fait, qu'un genre. Voilà. Et il ne s'agit pas uniquement de raconter l'expérience humaine, mais aussi d'évoquer, grâce à l'écriture poétique et littéraire, les processus naturels, les rythmes des animaux, essayer d'envisager à quoi ressemble le point de vue d'un animal également. Et une autre grande différence, ça serait que l'écriture de la nature, c'est plutôt de la non-fiction, et la littérature environnementale englobe aussi les écrits de fiction, en général.
Alors vous, justement, vous avez travaillé dans votre recherche sur la fiction, dans la littérature écologiste, et plus particulièrement sur les animaux dans cette littérature. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la faune, justement, de la littérature?
En fait, quand j'ai commencé mes études, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des animaux partout dans la littérature américaine. Il y a Moby Dick, bien sûr. Après, on a étudié plein de romans, de poèmes, de pièces de théâtre. Et je voyais qu'il y avait beaucoup d'animaux partout, mais ils étaient peu étudiés. Et souvent, dans les écrits ou les articles de recherche, ils envisageaient beaucoup comme des symboles ou des métaphores pour les comportements humains, les histoires humaines. Et donc, je me suis intéressée à cela, mais est-ce que les animaux ne servent pas à autre chose ?
Mmh.
Et c'est aussi pour des questions d'intérêt personnel pour la nature autre qu'humaine que j'ai eu envie de concilier ça. Et donc, j'ai découvert, en fait, en parlant avec des enseignants à l'époque, j'ai découvert le courant de la littérature environnementale que je ne connaissais pas. Et tous les champs critiques qui sont associés, l'éco-critique, l'éco-poétique, la zoopoétique, voilà, il y a tout un champ. Et j'ai décidé de me concentrer sur les animaux, parce qu'il faut bien se concentrer sur quelque chose aussi. Et j'ai vu toute la variété, voilà, comme je dis, il y en avait tellement, je savais que le corpus pourrait être assez évident. Et donc je me suis intéressée voilà, aux animaux non humains, principalement aux animaux dits sauvages, mais pas uniquement, aussi les animaux d'élevage, les animaux de compagnie, les insectes.
Les animaux urbains, vous me disiez.
Urbains ouais. Également. Alors je ne me suis pas encore trop intéressée aux animaux qui vivent en nous, comme les bactéries, mais pourtant il y a plein de choses à dire là-dessus, mais peut-être un jour. Voilà. Et on vit avec eux, ils vivent en nous, mais peut-être plus tard.
Alors l'auteur qui vous a tapé dans l'œil, c'est Rick Bass. On l'évoquait dans le titre de votre livre. Comment ils existent justement, les animaux, dans l'œuvre de Rick Bass ?
Alors c'est pareil, ils sont partout.
Ouais.
Ils sont partout. Rick Bass est un auteur qui vit dans le Montana depuis les années 80. Et donc il y a toute la faune que l'on peut avoir dans notre imaginaire hein, là-bas. Des grizzlies, des loups, donc la grosse faune, la mégafaune, mais également beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes. Ses chiens aussi, des chiens de chasse. Il a notamment dédié un livre à Coulter, un de ses chiens de chasse préférés, avec qui il a vécu des choses très fortes. C'est un très beau texte que je recommande, et pas que aux amoureux des chiens, vraiment, c'est un texte d'amitié superbe et de coopération interespèce vraiment fabuleux. Donc les animaux sont partout, ils sont parfois, c'est vrai, dans le décor, donc ils sont évoqués juste tel quel, un vol d'oiseau qui passe, ou un mammifère ou un rongeur qui traverse un champ ou la forêt devant lui. Et puis, très souvent également, les animaux sont cherchés.
Mmh.
C'est l'objet de la quête des récits, que ce soit les récits de fiction ou non-fiction. Quand il raconte lui-même ses expéditions dans les forêts du Montana, ou des récits de vie de personnages fictionnels, eh bien, ils sont tous en quête d'un animal. Voilà. Alors, c'est pas tellement comme Moby Dick, un animal qui est nommé, où on veut se venger de cet animal qui nous a blessé, mais l'envie d'aller voir un animal dont on a vu les traces autour de sa maison plusieurs fois. On a vu son ombre, on a senti son odeur. Et ils sont animés par ce désir de trouver, de rencontrer l'animal. Et pas uniquement pour le tuer. Il y a souvent des chasseurs dans ces personnages, hein, c'est vrai, mais aussi beaucoup de personnages qui veulent simplement voir, rencontrer, échanger un moment, même bref, avec un animal.
Et vous me disiez en préparant ce podcast que le lecteur ou la lectrice peut même être un peu frustré parce que parfois la rencontre ne se fait pas avec l'animal, elle est suggérée, elle est espérée peut-être pendant tout le livre et elle n'arrive pas.
Et oui, tout le récit souvent dans ces nouvelles est construit autour de cette attente. Comme je le disais, un personnage identifie des traces d'un animal, il va les déchiffrer comme dans un roman policier. C'est vraiment la même chose, hein. Repérer des traces, identifier, alors oui, là, le sang a séché, donc il est passé là peut-être il y a 2 jours. Là, je vois des petits, une touffe de poil accrochée à un tronc d'arbre, donc c'est un ours qui a dû se gratter, il est passé par là, les odeurs, enfin, toutes ces choses-là sont déchiffrées, analysées sans que l'animal soit vu en entier encore. Et donc, ça dure plusieurs pages. Donc, l'attente grandit, ou parfois, on sait aussi que l'animal a été blessé et les traces de sang augmentent. Donc, est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il va retrouver l'animal mort ? Ou un blessé, encore vivant ? Vraiment plein de questions. Et puis, quand arrive le moment de la rencontre, ça, c'est un motif qui revient souvent chez Rick Bass, en fait, soit la rencontre est décevante, juste, bah oui, c'était un gros ours. Il décrit comme ça, c'était un gros ours. Ou alors, en fait, l'animal, on ne le voit pas. Parce que, par exemple, c'est un jour d'hiver, et la neige tombe et recouvre les traces. Donc là, la trace est perdue et il faut rentrer chez soi. Et donc, ça peut être un peu décevant, mais ce que j'ai développé dans mes recherches, c'est que c'est pas juste jouer avec les attentes du lecteur, c'est aussi un procédé éthique. Mmh. C'est-à-dire que finalement, on ne voit pas l'animal. On le voit juste par les traces qu'il laisse. Soit ce qu'il veut bien nous laisser, parce qu'il y a des animaux qui ont cette capacité aussi de donner le change, ou alors c'est fait de manière involontaire. En fait, en ne montrant pas l'animal, cet animal-là, bah, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que les humains, bah, on ne pourra pas toujours comprendre, conquérir, dompter le monde non-humain. Il nous échappera et il faut qu'on fasse preuve d'humilité et qu'on apprenne à laisser aller, laisser faire également et qu'on se défasse de cette volonté que l'on peut avoir, cette espèce d'instinct du chasseur qu'on a, de devoir attraper, voir, même si c'est juste une saisie intellectuelle et pas forcément enlever la vie de cet animal. Et voilà. Et donc ça nous apprend aussi à nous mettre en retrait et laisser les animaux aussi, pour le dire de manière très simple, vivre leur vie et rester sur leur territoire sans qu'on essaie d'annexer ce territoire.
Je voudrais que vous me disiez un mot également, Claire Cazajou-Auger, sur le style d'écriture de Rick Bass, qui est aussi particulier et qui est propre à l'écriture poétique.
Oui,
c'est ça.
C'est ça. En fait, il a écrit quelques poèmes, mais il écrit principalement de la prose. Il a travaillé aussi avec un groupe de musique. Ils ont fait des enregistrements où il a écrit des textes également, mais c'est principalement de la prose. Mais comme chez beaucoup d'autres auteurs, il va mettre des procédés poétique, donc ça peut être des rimes internes, des jeux de syntaxe, des jeux rythmiques, des jeux sonores dans son écriture. Et c'est là où on voit en fait que son écriture, le but n'est pas simplement de représenter la nature, de la décrire. C'est pas juste ça. C'est aussi essayer, avec l'écriture poétique, d'évoquer quelque chose, des rythmes des animaux. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mimétique.
C'est presque une incarnation.
Il y a quelque chose de ça, mais sans prétendre néanmoins que l'écriture peut recréer le monde non humain. Parce que là aussi, c'est une forme d'emprise et de saisie. Et c'est pas ça que veut faire Rick Bass, hein, j'ai l'impression, quand j'analyse son écriture. C'est plus évoquer, essayer de nous faire approcher quelque chose de la nature et des rythmes de la nature, et notamment des expériences des animaux auxquelles nous n'aurons jamais accès. Si je peux vous donner un exemple.
Avec plaisir.
Malgré nos désirs de voler, on ne pourra jamais voler, les humains. On est d'accord. Voilà. À moins de prendre un avion.
N'essayez pas.
N'essayez pas ça chez vous. Dans l'écriture, alors ça, je me suis aidée aussi d'autres chercheurs qui ont travaillé sur l'écriture des styles des animaux. Et en fait, je me suis intéressée beaucoup aux structures verbales. Parce que les verbes décrivent une forme d'immédiateté de rapport au monde. On n'est pas dans les noms qui sont très conceptuels, peut-être, ni dans la nomination qui nous rappelle un peu aussi cette appropriation, hein, dans la Bible. On nomme, donc on possède, mais quelque chose de plus vif, de plus immédiat à l'aide de verbes. Et, par exemple, quand il veut décrire des rapaces et leur vol circulaire, ben là, on va avoir beaucoup de verbes à la forme ing, donc à la forme progressive, en anglais, qui vont montrer ce côté répétitif. Voilà, vous voyez, plus que le verbe, c'est cette forme gérondive progressive qui va montrer cette circularité, cette répétition. Et au contraire, par exemple, si on compare ça avec la description de vol d'insectes, et bien là, par contre, il va souvent avoir recours à des verbes monosyllabiques. Conjuguer une accumulation pour montrer un peu ce vol erratique, comme on peut imaginer les mouches voler, etc. Donc il y a une vraie différence aussi selon les espèces, mais aussi parfois selon chaque individu animal. Un loup et un autre loup n'auront pas la même façon exacte de se rapporter au monde. Et il y a vraiment une attention à ces styles d'espèces, mais aussi à des styles individuels d'animaux.
On pourrait en parler pendant des heures. J'ai une dernière petite question tout de même qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'on pourrait dire que la littérature environnementale ou écologiste est militante, quelque part, ou en tout cas que leurs auteurs sont militants ?
Je défends cette idée-là. Ce n'est pas forcément un militantisme frontal où, on va dire, voilà, il faut... Ce que faisait Thoreau parfois, avec où il disait à la fin de son ouvrage Les forêts du Maine, qu'il faut créer des espaces protégés. Alors, il ne parle pas encore de parcs naturels, mais en fait, ça a donné lieu quand même ensuite à ça. Hein. Cette pensée-là de Thoreau a influencé par la suite des hommes politiques, d'autres philosophes, bien sûr. Mais la littérature écologiste en général en nous donnant accès à d'autres façons de voir le monde, en nous montrant d'autres intérêts, pas que ceux des humains, mais aussi de toute la richesse d'autres espèces, de la vie des plantes, parce que je parle des animaux, mais bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça, de montrer la vulnérabilité aussi de cette nature que l'on détruit par nos actions humaines, eh bien, il y a une forme de sensibilité qui se crée aussi et une envie de donner une conscience écologique au lecteur. Et ça, c'est dans la forme, notamment ce que je vous ai dit, mais aussi parfois, c'est tout simplement avec en décrivant des rapports entre des personnages, entre eux, ou avec des animaux, comment ils se comportent avec eux. Alors parfois, ça peut être des comportements qui sont vus comme des contre-modèles, il ne faut pas faire ça, on le voit bien, évidemment, mais aussi des choses vers lesquelles on pourrait tendre, des relations plus éthiques. Donc il y a une véritable proposition de monde qui se fait de manière détournée, soit par des récits de vie, des récits de rencontres, ou alors des récits qui finissent de manière un peu peut-être frustrante pour les lecteurs, comme on disait tout à l'heure, mais également aussi dans l'écriture, avec l'adoption de points de vue, on essaie d'adopter le point de vue d'un animal, ou montrer comment il vit, comment il perçoit le monde. Essayer d'imaginer ça, ça nous aide à nous décentrer un petit peu, et il me semble que c'est un peu l'essentiel quand on est dans une crise de l'anthropocène comme aujourd'hui, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas que les intérêts des humains qui comptent, loin de là.
Changer de point de vue.
Oui.
Et oui. Claire Cazajou, Auger, du coup, on a envie de vous demander un conseil de lecture, évidemment, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast. Quel conseil vous donneriez, alors je dis lecture, mais si vous en avez un autre, bien évidemment, vous pouvez le suggérer, à celles et ceux qui nous écoutent sur ce beau sujet.
Je vous conseille un ouvrage récent et très court qui est sorti il y a 2 ans, en 2022. C'est un ouvrage d'une chercheuse française historienne de l'art qui s'appelle Estelle Zong-Mingal. Elle a fait plusieurs ouvrages, mais celui dont je voudrais vous parler s'appelle « Peindre au corps à corps, les fleurs et Georgia O'Keeffe ». C'est un court texte, mais passionnant, sur une relecture d'une certaine partie de l'œuvre de Georgia O'Keeffe, c'est celle des tableaux de fleurs en gros plan, que vous avez certainement déjà vu, ou peut-être pas. Et ces tableaux ont souvent été analysés comme des symboles de sexe féminin. Si vous regardez, vous allez comprendre assez rapidement cette analyse. Mais elle essaie d'aller au-delà de ça. Et ça montre aussi, je pense, la manière dont une perspective environnementale sur l'art peut totalement changer notre point de vue sur l'œuvre d'un artiste. Et ce qu'elle propose, c'est que ces fleurs pourraient avoir été peintes du point de vue des pollinisateurs. Voilà, donc un point de vue, un gros plan sur ces fleurs qu'on s'apprête à polliniser, et parce que leur vie dépend de des fleurs. Et donc, ce ne sont plus des symboles de beauté ou de fragilité, ces fleurs-là, ou de la sexualité féminine, mais ce sont aussi des corps signifiants pour d'autres êtres, notamment les pollinisateurs. Voilà. Est-ce que vous me permettez que je lise quelques mots ? Donc, c'est la toute fin, désolée, je vous divulgage, comme on dit la fin. Sur une toile de O'Keeffe, les fleurs sont bien des fleurs, mais ça ne veut plus dire ce qu'on pensait. Cela veut dire qu'elles ne sont plus ni signifiées humains, ni strictes formes anatomiques, suivant la dichotomie moderne où nous étions coincés. Les fleurs sont bien des fleurs, c'est-à-dire bien des corps, mais des corps signifiants, porteurs de leur propre sens autochtone. C'est désormais par le rayonnement propre de ces puissances, par ces relations qui la tissent aux autres vivants, dont nous faisons partie, qu'elle peut prendre place, parmi nos autres formes de symboles, dans la constellation des figures qui habitent notre univers intime, affectif et mental collectif. Donc c'est un peu intense ce que je vous lis, mais je vous le conseille, il se lit très facilement, et c'est voilà, une très belle relecture de l'histoire de l'art d'un point de vue environnemental et d'autres vivants que nous.
Ça fait du bien aux oreilles. Merci beaucoup Claire Cazajou-Auger d'avoir accepté notre invitation.
Et merci beaucoup de m'avoir invitée.
On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est également accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'Université. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et les plateformes numériques. On Air.